Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Rust, hier soir, nous envoie un message. Ils vont tuer Rod Tang. Ils veulent tuer Rod Tang. Dimitris Johnson, qu'est-ce que je raconte? Ils veulent tuer Dimitris Johnson parce que oui, le 5 décembre prochain au NFC, Dimitris Johnson contre Rod Tang.
Mais en fait, j'ai changé d'opinion.
Oh! Eh ben, on va voir tout ça très rapidement. Bien évidemment, Poly Domso est là, donc attention, podcast de gala. Rust qui est en train de manger son petit bol de céréales.
Pardon.
On est bien,
désolé,
on est
tranquille, vraiment,
on est entre nous, vous le savez, Road to 100 G's, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, et on avance très très rapidement, c'est parti, le générique.
Soit.
Dimitris Johnson, Rod Tang, premier round Muay Thai, deuxième round MMA, troisième round Muay Thai, quatrième round MMA. Dimitris Johnson doit survivre un round. Un round, c'est tout ce qu'il a à faire pour s'en sortir et gagner le combat, mais ça a l'air d'être quand même très très chaud, même si Rust a changé d'avis. Donc, parole à la défense, parole à Rust.
Oui, parce qu'en fait, comment dire, on en a parlé du coup tous les trois, et en fait par message à un moment donné Poly Domso envoie, bon, s'il survit le premier round, c'est du tout cuit. Donc évidemment il y avait le s'il survit, mais finalement je me dis c'est survivre et c'est des rounds de Muay Thai, donc c'est, ah d'ailleurs attends, c'est des rounds de Muay Thai, c'est 3 minutes ou c'est 5 minutes pour le Muay Thai?
On n'a pas les informations pour le moment.
C'est ce que j'allais dire, c'est que la question, elle est rendue complexe par la propension au ONEFC à nous sortir les règles au dernier moment.
Parce que ça peut être un round de 8 minutes aussi. Hein.
juridiquement, ça se tient. Hein. Mais, non, parce que déjà, est-ce que c'est dans un ring, est-ce que c'est dans un octogone, une cage, on ne sait pas. Et ça, ça impacte énormément. Hein. Les chances de survie de Dimitris Johnson sur le premier round de Muay Thai seront considérablement accrues si c'est une cage que si c'est un ring. On en parlera pourquoi après. Est-ce que c'est des rounds de 5 minutes? Est-ce que c'est des rounds de 3 minutes? On ne sait pas. Est-ce que il y aura est-ce que quand pendant les rounds de Muay Thai, quand tu vas au sol, tu seras compté ou tu seras pas compté? Enfin, il y a plein de comme ça d'inconnus qui font que finalement pour le moment, c'est assez aléatoire. Ils ont un peu lâché la petite bombe comme ça parce que je pense que personne s'attendait à un tel match-up. Et en réalité, on a plus de questions que de réponses malheureusement
Et je pense qu'on peut, il y a un truc que je pense qu'on peut dire. Et en fait, maintenant, moi, j'ai un petit peu changé d'optique parce que c'était implicite jusqu'à maintenant. Mais depuis que Chatri, le président du ONE,
président du ONEFC, ouais,
à la tête du ONEFC, depuis qu'il l'a dit, mais genre noir sur blanc, comme quoi c'est un problème parce que même les combattants UFC, ils arrivent pas à survivre chez nous visiblement. En gros, depuis qu'il l'a dit, je suis en mode ah oui, donc en fait, bon, on le savait tous, évidemment qu'ils essaient de faire ça, mais maintenant. Ça veut dire que vraiment, ils essayent de détruire probablement les combattants UFC pour montrer qu'eux, en fait. Et du coup, moi, c'est le seul truc qui m'alarme un peu, c'est que là, on est en train, comme le disait Poly Domso, de nager un petit peu dans la purée de poids au niveau des règles, au niveau des trucs comme ça. Mais un truc qui est sûr, je pense, c'est que donc, le ONFC, il y a des chances qu'ils mettent tout en œuvre pour que ça défavorise DJ, je pense.
Après, faut pas oublier que DJ, de par son entraîneur, Matthew, il est quand même lié au ONFC.
Qui est vice-président, vice-président du ONFC.
Qui est vice-président ouais. ONFC. Donc il y a une situation quand même de conflit d'intérêts qui est assez intéressante, je trouve. Ouais. On a quand même un mec qui fait les règles au ONFC, qui est l'entraîneur d'un des combattants vedettes du ONFC. Donc c'est très
particulier. Et en plus, mais pourtant, qui a donc combattu des gars, Dimitris Johnson, qui était surhumain. Donc qu'est-ce qui se passe?
Probablement chargé de bonnes intentions et probablement dans des situations. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai un gros problème avec le ONEFC, honnêtement, en tant qu'organisation. Et je le dis avec le maximum de mesure et de modération possible. C'est que c'est une organisation qui a plein de potentiel. Ça, je le reconnais, qui est très forte dans l'habillage et dans le divertissement qu'il procure. les événements sont cool, ils ont des beaux combats, ils ont des beaux combattants aussi. Bon, après, le niveau est quand même assez aléatoire et varie grandement dans les catégories, mais ils arrivent quand même à fournir du beau spectacle. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt le côté un peu occulte de l'organisation. On sait pas, à chaque fois qu'ils publient des chiffres, c'est des chiffres catastrophiques où ils ont je sais pas combien de millions de dettes, ils n'enregistrent pas de profit, mais l'organisation continue de tourner. Les règles varient d'un combat à l'autre. Il y a des décisions rétroactives sur les décisions, c'est-à-dire ouais. qu'en gros, on va dire, non, mais en fait, en gros, le takedown où on fait une chandelle, bah, c'est finalement pas autorisé, donc tu seras disqualifié plutôt qu'avoir gagné le combat. On a un président qui se paye le luxe de balancer quand même des punchlines pas super cool envers ses propres employés, parce que c'est ça, tu vois, tu t'engages Eddie Alvarez et tu dis, ouais, mais il fait pas le poids. Surtout quand tu prends Eddie Alvarez, bon, si ce n'est le premier combat qu'il a perdu contre
Natchukin.
Qui était énorme, hein. Il y avait clairement une classe d'écart entre les deux en termes de catégorie. Bah, les autres combats, il les a perdus, mais il les a pas trop perdus non plus, quoi. C'est des combats un peu, genre un peu merdiques, quoi, où il y a toujours eu une petite controverse, que ce soit sur la décision ou sur la décision d'arrêt de l'arbitre. Donc, c'est très particulier, c'est très bizarre. Les pesées ne sont pas filmées par les journalistes. Alors, ils nous bassinent avec leur système de pesée continue, qui serait la réponse au cutting. Moi, je veux bien, hein, dans l'idée, l'idée est excellente, mais on n'a aucun suivi, on n'a rien. Pareil pour les tests anti-doping. Ils ont quand même, c'est Chatry qui avait balancé quand même, ouais, non, mais nos combattants sont trop honorables pour se doper.
Ouais. Ça, c'est... quand même, merde.
Bon, d'accord. Donc voilà. Donc on est dans une, le ONE FC ressemble beaucoup au Pride à maintes égards, dans cette contradiction constante. C'est-à-dire que, en termes de spectacle, c'est cool. En termes d'idées, c'est cool aussi. Ils ont des idées, franchement, par exemple.
Alors, mais parfois, même celle-là.
Ouais, non, celle-là, c'est une très bonne idée, mais ça fait penser justement au Pride ou au Dream, justement, où ils avaient fait des combats un peu comme ça. On se souvient, Jérôme Le Banner contre le gros Bob Sapp. Bob Sapp, oui. Et, en règle mixte, dans le gros lutteur énorme.
Oui.
Et ils ont des idées aussi, tu vois, par exemple, l'application sur, enfin, les combats sur YouTube, c'est intéressant. Ouais. Alors, parfois, ils font des trucs genre, là, je sais pas si vous avez suivi, mais c'était, je pense, la fausse bonne idée, une idée vraiment de marketeux. Où en gros, ils font un tournoi féminin, et au lieu de faire des brackets, on va dire, aléatoires, ils laissaient en fait aux abonnés la possibilité pour qu'ils rencontrent. Ils ont annoncé ça comme s'ils venaient de découvrir l'eau chaude, tu sais, genre, oh putain, c'est un truc de ouf, et tu fais putain, mais qu'est-ce que c'est, merde. Mais bon, bref, donc c'est ça en fait le ONE FC, et là, on a le paroxysme de ce que peut nous offrir le ONE FC. On ne sait rien en fait sur ce combat, c'est un effet d'annonce. On sait que ça va être cool parce que Road Tank, il est génial, et Demetrius Johnson, il est génial. Et ils vont avoir chacun l'occasion de s'exprimer. Et je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'en réalité, on risque d'être un peu sur notre faim dans ce combat. Je pense, très honnêtement, si je dois...
Après, Demetrius Johnson a plus de chances de survivre en Muay Thai que Road Tank n'en a en MMA.
C'est pour ça que je pense qu'on va rester sur notre faim. Parce qu'on se dit, putain, Road Tank, il y a moyen qu'il le bouffe parce qu'en Muay Thai, c'est une machine, le mec. Mais en même temps, je me dis, Demetrius Johnson, il est trop rusé. En vrai, et dans une cage, dans un ring, je pense que c'est plus compliqué parce que Road Tang il cut bien le ring, mais il cut pas très bien la cage. Quand on regarde les combats de Road Tang en Muay Thai, quand il est dans un ring, vous regardez son deuxième combat contre Jonathan Argerti, c'est du Mozart. Oh,
tu vois, ah ouais.
Il écarte le coup de pied, il rentre, il va directement au corps, il lui a laissé aucune chance. Alors que sur le premier combat, je pensais qu'il avait perdu. Enfin, c'était très tendu et il a réussi à s'adapter. Alors que quand il est dans des cages, comme c'est circulaire et que t'as un espace qui est plus grand pour bouger, il a vraiment du mal à cutter l'octogone, enfin la cage, quoi. L'octogone, c'est je devrais pas dire ça, mais la cage, parce que la plupart de ses combats, c'est genre le mec qui court autour de lui pendant 25 minutes et Rotan qui fait mais vas-y attaque-moi. Donc en réalité, je pense que Demetrius Johnson, il a suffisamment bon footwork pour survivre le premier round, pour bouger, pour tourner. Si on est dans une cage, et après le deuxième round, je pense que Rotan, il a aucune connaissance en sol.
Mais après, est-ce que le ONE FC va pas faire justement un bail en mode t'es obligé d'engager ouais, non, bah, t'es dans interdit dans le MMA. Non, mais tu sais, ou au moins qu'il fasse un truc, ce que faisait aussi le Pride, et je crois ce que fait l'UFC, mais t'es obligé d'engager, sinon t'as des pénalités. Et en gros, ils vont peut-être pousser le curseur au maximum. Je sais plus dans quel combat on avait vu, et je crois qu'on était tous les trois en plus, un combat, je sais plus où c'était, où en gros, l'arbitre, et je crois que c'était au ONE FC. En gros, l'arbitre, s'il y avait mais 2 secondes où les combattants n'envoyaient pas un low kick de porc ou une droite, le mec était en mode action, action. Et il y a moyen qu'il fasse un bail comme ça aussi, hein. Et que du coup, ben, tu puisses pas, Demetrius Johnson ne puisse pas tourner autour, ne puisse pas essayer de s'évader un peu et soit obligé de rentrer dans le tas. Mais et même pour Demetrius Johnson, j'ai envie de dire, c'est même pour l'entraînement, c'est pas évident parce que du coup, tu sais que t'es obligé de mettre à mort l'emphase sur le Muay Thai, mais d'un autre côté, tu sais aussi que t'es obligé de mettre à mort l'emphase sur être très très chaud sur les timings de lutte et sur les amener au sol parce que faut pas les louper. Même pour lui, en fait, c'est pas si évident de s'entraîner pour un truc mixte comme ça. Rotang, entre guillemets, il a son Muay Thai et il va apprendre vite fait 2-3 trucs pour essayer de se sortir de takedown, mais je pense que ça va être assez vite vu. C'est pas évident. Pour DJ, franchement, ça ressemble un peu à un traquenard. Hein.
Et j'ai envie de dire, je vais relancer la conversation, je vais te permettre, Rust, de nous faire une de tes envolées dont tu as le secret, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, Rotang?
Mais oui, parce qu'on en a pas parlé finalement. On n'en a pas parlé.
Ah, les gars, Rotang, c'est. Alors déjà, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'il a 24 piges.
Et il a 300 combats.
Il a 24 ans, et en gros, je crois qu'il est genre à 267 victoires, 42 défaites. C'est à la Muay Thai, en fait. Mais même pour un combattant de Muay Thai, ça fait beaucoup quand même. Enfin, à 24 piges, c'est énorme. Alors, on sait que c'est parce qu'il combat aussi tous les week-ends, etc. Il est champion du Raja, d'ailleurs, double champion, je crois. Donc, en fait, c'est un gars qui est extrêmement technique et qui est le haut du panier en Muay Thai de toute façon quoi qu'il arrive avant d'arriver au ONE FC. Et c'est un gars qui à 24 ans a déjà fait le tour de la planète plusieurs fois sur des séquences qui ont buzzé parce qu'en gros c'est un déjà il est très bon mais surtout il est surpuissant en fait. Et en Muay Thai, c'est un petit peu moins ça, dans le sens où en Muay Thai, de par la structure des combats, en fait, où tu es obligé d'être technique pour les parieurs sur les premiers rounds, je crois que c'est le quatrième où tu peux y aller à fond, etc., et après un peu moins. Donc, tu peux un peu moins t'exprimer si tu es un mec qui est juste surpuissant, mais maintenant qu'il est dans une organisation qui fait ça, entre guillemets, un peu plus à l'occidental, il peut vraiment laisser parler son agressivité et sa puissance de feu. Et du coup, maintenant, il est surtout connu pour faire des trucs où il avance, tu lui mets ce que tu veux, il ne bronche pas, et ce qui d'ailleurs, parfois, ça tend à l'incompréhensible, en fait, ce qu'il peut manger sans continuer en continuant d'avancer. Et lorsque lui attaque, ça peut très très vite être terminé pour toi en fait. Donc en fait c'est ce mec là qui est une espèce de boule de puissance de muscles et de résistance à 24 piges avec une expérience monstrueuse en Muay Thai et qui va arriver contre Demetrius Johnson. C'est intéressant quoi.
C'est un truc de fou. Et alors je recommande pour ceux qui nous suivent qui n'ont pas eu la chance de regarder autant combattre avant, je recommande deux combats.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le premier combat contre Jonathan Hagerty, qui est pour moi
Beau.
C'est, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont fait, c'était en 2019 ou 2020, mais c'est un des plus beaux combats de striking que j'ai vu en kickboxing, enfin peu importe, tout style confondu, boxe, kickboxing, c'est magnifique, parce qu'on a un super technicien contre ce mec-là, mais il est très technique, Rotang aussi, hein, t'as bien fait de le souligner, mais c'est juste que c'est vrai que c'est plus un pressure fighter qui a beaucoup de hargne et beaucoup de résistance contre un vrai fimeux, quoi, un vrai technicien qui a peut-être aujourd'hui les plus beaux types. Plus beau et il travaille beaucoup sur les variations qu'il fait au niveau des types, Jonathan Hagerty. Donc regardez ce combat, ça vous donnera envie de regarder Jonathan Hagerty qui est un très bon combattant, donc comme ça on en parle. Et il y a son, pour ce que tu soulignais sur le côté délirant de la résistance de Rotang, son combat contre Tenshin Nasukawa où franchement c'est juste pas compréhensible quand on regarde ce que Tenshin Nasukawa c'est un mec qui est réputé pour avoir énormément de punch et il met beaucoup de KO en kickboxing, ce qui lui met sur les trois premiers rounds, normalement, tu te relèves pas d'un truc comme ça. Enfin, il prend des contres. Vous voyez le contre que fait Conor McGregor contre Ivan Bushinger, en haut, t'as ça, mais genre 15 fois dans un round. Et Rotang, il tombe pas, quoi. Il continue d'avancer et il continue de mettre la pression. Donc, c'est juste délirant. Donc, ce mec est une anomalie de la nature. Je sais pas comment il va vieillir. J'ai un peu de peine pour lui. Je pense qu'il a été vraiment pressuré comme un fruit par ses organisateurs, parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'argent non plus, hein, malheureusement. Donc c'est un peu triste. Il a énormément de vaillance, beaucoup de courage et beaucoup de technique. Et il a maintenant il s'améliore énormément en technique, parce que comme il est serein dans les échanges, il peut faire des trucs, il peut esquiver, il peut rester en fait dans cette distance de combat qui normalement fait paniquer les gens. Normalement, quand tu restes à distance de crochet, il reste pas très longtemps, lui il s'en fout, il continue d'avancer, c'est assez impressionnant. Donc là, je pense que c'est un peu un combat qui va lui donner encore plus de visibilité. Ce serait triste pour Demetrius Johnson, mais très marrant que Rod Tang nous fasse une Nagashima. Je fais une parenthèse, il y avait eu un truc comme ça qui avait été organisé par le Dream entre un kickboxer et Shin Aoki. Et à l'époque du Dream, Shin Aoki, c'était en 2010, je pense, c'était un peu la star du Dream, en fait. Ils avaient organisé un combat contre un kickboxer qui avait pas le niveau de Rod Tang, hein, clairement pas, il s'appelle Yoshiro Nagashima, c'était plus un journeyman kickboxer, c'est un mec qui tout le temps était dans les braquettes d'ouverture des K1, mais qui se faisait virer à chaque fois qu'il rencontrait un mec vraiment bon, donc plutôt un combattant local au Japon. Et c'était vraiment un combat pour faire briller Shin Aoki, parce que Nagashima était assez connu au Japon. Et sur le premier, enfin le combat c'était un désastre à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le premier round, c'était un round de kickboxing et Shin Aoki avait glitch le game, c'est-à-dire qu'il faisait que des coups de pied sautés où il tombait pour casser l'action. C'était immonde à regarder, hein. C'était immonde. Arrive le deuxième round où Shin Aoki qui est une brute au sol. C'est vraiment un tueur en grappling. Sur le premier takedown, il se prend un genou sauté, il se met KO par Yoshiro Nagashima.
Mais non.
En MMA, tu vois. Donc, il y avait eu un retour de flamme assez violent. Et peut-être que, je pense pas. Je pense que Demetrius Johnson est suffisamment malin pour pas faire une Shin Aoki, justement. Mais c'était quand même assez marrant, quoi. Donc, ça, c'est dans l'envisageable, quoi. Mais en réalité, moi, bon, ce combat, il me fait un peu de la peine pour les deux participants. Ça me fait de la peine pour Demetrius Johnson. Qui se retrouve un peu en embuscade, parce qu'il va quand même prendre un round avec Rod Tang.
Malgré ce qu'il ait dit, tu sais, qu'il voulait aujourd'hui justement aller dans d'autres disciplines, tenter d'autres choses.
C'est vrai. C'est marrant qu'il fasse ça maintenant, parce qu'en fait, on a attendu ça pendant toute sa carrière à l'UFC.
Ouais.
Et j'ai l'impression que le fait qu'il ait perdu au ONE FC lui a un peu décoincé certaines choses. C'est-à-dire qu'avant, il était un peu enfermé dans son rôle de champion invaincu et tout, et c'était nécessaire pour lui d'accumuler les défenses de titre. Là, d'un côté, c'est louable qu'il se dise maintenant, je vais tenter des trucs, je vais rencontrer des mecs en kickboxing et tout. D'un autre, je me dis, c'est un peu dommage que c'est lieu au NFC. Ce serait été mieux si ça avait lieu un peu plus tôt à l'UFC, quoi.
Parce que t'es en mode, c'est un peu un traquenard ou?
Bah déjà oui, je pense qu'honnêtement, même si je le donne gagnant là contre Rod Tang, justement pour ce qu'on a évoqué, parce que je pense que Rod Tang n'a pas le bagage nécessaire en MMA pour survivre un round de Demetrius Johnson, mais je pense quand même qu'il va prendre un round de Muay Thai avec Rod Tang.
Okay.
Ça c'est pas cool. Enfin, je veux dire, il va prendre des coups, il va prendre des low kicks, et tu vois, chaque combat comme ça sera une souffrance pour lui en réalité. Et puis autrement. Là, par exemple, il pourra même pas monter de catégorie, parce que je pense que même dans sa propre catégorie au ONE FC, il est déjà en sous-dimension par rapport à ses adversaires.
Bah, c'est l'équivalent des bantamweight à l'UFC, hein, les flyweight au ONE FC.
Des gros bantamweight, parce que quand on voit les modèles, c'est quand même assez. Moi, je pense qu'il y a des magouilles sur les pesées, trucs comme ça, c'est pas possible. Quoi. Quand tu vois le dernier qu'il a combattu, qui est très bon d'ailleurs,
Adriano Moraes, ouais.
Moraes, il est très très bon. Au-delà de ça, il est excellent. Hein. Je retire rien à son niveau, mais bon, clairement, on sentait qu'il y avait catégorie d'écart, voire deux, avec Demetrius Johnson. Hein. C'était patent. Donc oui, j'ai un peu peur pour la suite pour Demetrius Johnson, parce que je pense que c'est un peu la stratégie qu'a évoqué Rust de Chatry, de dire bah nous, on n'a rien à envier à l'UFC. On prend d'ailleurs leurs meilleurs combattants et ils perdent. Et ça, c'est vraiment pas cool comme marketing. Et d'un autre côté, j'ai un peu de la peine pour Rod Tang aussi, parce que mais là c'est plus en général, c'est pas sur ce combat, parce que très honnêtement, c'est une opportunité pour Rod Tang, ce combat. Il va, même s'il perd, s'il se fait soumettre, c'est pas grave, on s'en fout, il sera connu en fait.
Pour les Américains, c'est clair, ça va être assez énorme.
C'est ça. Et si jamais il y a un échange où il prend des toises par Demetrius Johnson et il tombe pas, ça va le faire connaître en fait encore plus. Donc c'est une opportunité. Moi je pense que c'est plus sa carrière en général qui me rend triste, parce que je pense que très honnêtement, vu comment c'est parti, le mec est bon pour la démence pugilistique à 35 ans. Je pense qu'il y a pas de système de retraite en Thaïlande, de système de retraite à points selon le nombre de combats que tu fais. Enfin non, ça marche pas comme ça. Il sera tout seul et je pense pas qu'il ait beaucoup de pognon de côté. Donc c'est malheureux. Donc si je pouvais à mon maigre niveau essayer d'améliorer un peu la situation, je dirais regarder les combats de Rotang en général, essayer de le suivre et faites qu'il ait une caisse de résonance, parce que le mieux qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'il fasse comme Boako. Il y a des similarités entre les deux combattants, moi je trouve, hein. C'est assez intéressant, même au niveau du style, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Mm-hmm. Alors Boako était moins suicidaire dans sa façon de combattre, mais il y a c'est des pressure fighters dynamiques avec une très belle forme quand ils font des kicks et tout, c'est magnifique, on sent la fluidité, c'est des athlètes nés en fait les deux, avec une grosse emphase sur la condition physique tous les deux. Et Boako, il était un peu dans la même situation que Rotang pendant un moment, jusqu'à l'infamous moment où il s'est débarrassé de son camp. Le camp Porpora Mook, parce qu'en fait, il s'était fait barboter, je sais pas, 80% de ses gains, et il s'était rendu compte en allant au Japon que c'était une star. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, sa situation est meilleure, je pense, Boako. Je sais pas s'il est tiré définitivement des affres du fighting business, parce qu'il combat encore, et on se demande s'il en a vraiment besoin. Mais au moins, je pense qu'il peut déjà choisir les combattants.
C'est moins dangereux, oui.
C'est moins dangereux, parce que là, Rotang, il enchaîne des combats, mais c'est délirant, quoi. Là, il vivra pas longtemps. Donc, je pense que sa stratégie d'ouverture, c'est de faire une transition vers des combats internationaux où il sera reconnu, il sera apprécié et peut-être à terme se tirer du ONE FC. Je pense quand même, hein, parce que pareil, c'est un peu un traquenard cet endroit. Enfin, je le dis, je pense pas. Je trouve que c'est trop occulte. Si on me donne l'inverse, si on me donne le contraire, si on me dit ouais, il a gagné tant de millions sur les derniers combats, le paiement est juste par rapport à sa valeur, je retirerais ce que j'ai dit, évidemment. Mais là, pour le moment, j'en sais rien. Et tel que je vois l'agenda de combat, en fait, de Rotang, je me dis, c'est chaud quand même, c'est chaud. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, vous, de votre côté, sur ce combat en particulier.
En général. Moi, je suis content quand même. Je suis content pour les deux.
Content, c'est vrai que c'est.
En termes de retombées médiatiques et de résonance, surtout.
Voilà, c'est surtout ça. Parce que autant je suis d'accord avec Polydomso sur son analyse de Rotang et de sa situation et probablement et celle de DJ aussi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, en fait, j'ai pas pu m'empêcher depuis hier de me dire putain, mais ça va être marrant quand même.
Ouais, ça va être marrant. Oh, ouais.
Et c'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, le truc est quand même hyper excitant, quoi. Donc oui, malgré tout ce qu'on a dit sur ce qui se passe, sur le fait que c'est extrêmement opaque et tout ça, mais on peut pas s'empêcher de se dire, quand même, c'est une bonne idée dans le sens, l'inconnu est incroyable, l'excitation est assez incroyable aussi, parce que franchement, là, ça va être du jamais vu, quoi, et puis avec des gros noms. Donc, je peux pas m'empêcher d'avoir hâte d'y être quand même, quoi.
Ouais, et puis même rien que de voir une conférence de presse avec Rotang et Mirus Johnson, c'est tellement random que...
Mais j'avoue, c'est tellement insensé, purée.
Je terminerai en disant que c'est pas vraiment du jamais vu, parce qu'on a quand même eu Kyoji Horiguchi qui a rencontré Nasukawa en 3 rounds de full kickboxing pour le
coup. Et tous les deux dans leur prime, en plus.
Tous les deux dans leur prime, et il n'avait pas de round de MMA pour se tirer d'affaires. Et c'est marrant comme quoi il y a des parallèles, parce que Kyoji Horiguchi et Demetrius Johnson se sont rencontrés à l'UFC. Ils sont partis de l'UFC tous les deux de manière assez... je pense peu élégante dans les deux cas, c'est-à-dire que Horiguchi, je crois qu'il était à 7-1 à l'UFC, avec une défaite seulement contre Demetrius Johnson, il a été remercié un peu, bon vas-y dégage, on renouvelle pas ton contrat, et Demetrius Johnson c'était quand même le mec qui avait le plus de défenses de titre, enfin je sais plus s'il est égalité
si, le plus grand nombre de défenses de titre. Ouais.
Et on l'a échangé tel une vulgaire carte Pokémon, c'était spécial quoi, et là des deux côtés ils ont chacun leur tour eu un affrontement en kickboxing. Et alors le plus drôle, pour que la boucle soit complètement bouclée, c'est que Tenshin Nasukawa et Rotang se sont rencontrés aussi. Donc il y a une espèce de club un peu spécial là qui est en train de se former, c'est assez intéressant. Et puis pourquoi pas, hein, si jamais le, moi c'est un truc, bon, ça il y a peu de chances que ça se passe, parce que Kyoji Horiguchi a signé avec
Bellator,
mais toujours si en ça, ayant la possibilité de combattre une fois par an en Rising.
Ouais, donc si jamais Demetrius Johnson gagne et tout, moi c'est un combat franchement qui m'intéresserait de revoir de la redite Kyoji Horiguchi Demetrius Johnson, c'est un combat franchement je signe pour ça. Okay. Et je pense que ce serait même mieux pour Demetrius Johnson.
Et précisons que Kyoji Horiguchi s'était incliné par décision unanime contre Tenshin, donc il avait pas été ridicule dans ce combat, hein, dominé mais pas ridicule.
Ouais, c'est clair.
On a fait le tour, messieurs ?
Je crois.
Eh ben vivement le 5 décembre pour la mort de Demetrius Johnson. Alors, non, ça devrait bien se passer. Big shout out my sweet protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code de la sueur Venom. Sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur Venom. Sponsor aussi du ONE FC, quand même. Avec les...
Et oui,
sponsor du ONE FC. Quand même. Allez, à la prochaine. See ya.
See ya.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.